Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Christelle Yesso.
Bonjour, soyez les bienvenus au journal de 12h. Face au rapport du budget 2022 de la Cour des comptes, le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire se désole de ce que les ressources de l'État ne lui permettent pas d'atteindre ses objectifs. Le tronçon Yopougon-Plateau via le quatrième pont sera opérationnel dès la semaine prochaine, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en visite hier sur les chantiers de la Y4 et du quatrième pont. Au Sénégal, la Cour suprême doit statuer dans le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko. La ville de Mans fait peau neuve pour réserver un bon accueil aux étrangers pendant la CAN. Vous en saurez davantage dans le dossier CAN dans cette édition. Et en invité de la rédaction, nous recevons Serge Parfait Diomané, expert international en industrie pétrolière et énergie, qui nous partage des pistes pour réduire l'impact de la hausse du prix de l'électricité sur le quotidien, et ce sera dans quelques instants. Le premier conseil des ministres de l'année 2024 se tient ce jour sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel. En économie, le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire réagit face au rapport du budget 2022 de la Cour des comptes qui révèle un dépassement du budget de l'État au-delà du pourcentage de 1% recommandé par la loi de finances, mais aussi le faible recouvrement des taxes sur les thèmes d'État concernant l'établissement des cartes nationales d'identité et les passeports. Christophe Kouamé se désole de ce que toutes les ressources de l'État ne lui permettent pas d'atteindre ses objectifs et rappelle dans ce sens les obligations des ministères en charge de l'économie, du budget et des finances. Suivons-le dans cet élément.
Dans le cas précis, la loi, surtout le Code des impôts, à son article 901, oblige le ministère des Finances et du Budget à suivre la Direction générale des impôts pour que tous les impôts puissent être recouvrés et déposés dans la corbeille globale pour que le gouvernement prenne cet argent pour augmenter la qualité des infrastructures sociales comme les hôpitaux, les écoles et les routes. Dans le cas présent, le ministère du Budget et des Finances n'a pas recouvré les impôts à hauteur de l'estimation faite par la Cour des comptes. Si on prend le cas précis des passeports, il est dit que le passeport coûte 40 000 francs CFA. On a les moyens, chacun d'entre nous, de voir qu'il y a 25 personnes par rendez-vous, 8 heures par jour. On calcule simplement, on a autour de 2 milliards par an pour les passeports. Même si 50% doit rester à l'entreprise concessionnaire, il nous reste encore 1 milliard de francs CFA. Alors qu'il est inscrit noir sur blanc, 792 000 francs.
Alors, quelle explication, vous qui suivez un peu la bonne gouvernance, vous pouvez trouver à cette situation-là?
En réalité, depuis 2020, chaque année, c'est les mêmes recommandations qui reviennent. Et l'État de Côte d'Ivoire a donné pouvoir à chaque citoyen de demander des comptes au ministère des Finances et du Budget. Ce que nous avons fait depuis 2022, le ministère n'a pas trouvé utile de répondre.
C'était Dr Christophe Kouamé, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, en ligne avec Jean-Claude Comé. Toujours en économie, dans son discours à la Nation le 31 décembre 2023, Alassane Ouattara annonçait une croissance économique de 7% pour le pays en 2024. Dr Germain Cramo, enseignant d'économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, explique que cette croissance serait tirée par le secteur secondaire en tenant compte de la dynamique de la croissance en 2023, selon des projections faites par le ministère des Finances et du Budget. On l'écoute.
Cette croissance serait tirée par le secteur secondaire et aussi le secteur primaire. Donc c'est à partir d'hypothèses émises que cette projection a été faite. En tenant compte de la dynamique de la croissance en 2023, il y a des projections qui sont faites pour dire que la richesse créée en Côte d'Ivoire va augmenter de 7% en 2024. Donc en regardant comment le secteur secondaire a évolué, comment le secteur primaire a évolué et comment les principaux produits d'exportation ont évolué, on émet des hypothèses selon lesquelles on va suivre cette même tendance, donc ce qui nous permet d'avoir une projection pour cette croissance estimé à 7% en 2024.
Et donc, c'est fait sous la base de certains calculs?
Si, c'est sur la base de calculs, surtout d'hypothèses. comme je l'ai dit, on va projeter ce qu'on appelle généralement le cadrage macroéconomique. Donc, on essaie de voir comment les principaux agrégats macroéconomiques vont évoluer. Et aussi, cela est fait sur la base d'hypothèses. On fait l'hypothèse que les choses vont évoluer de cette manière. Donc, sur cette base, voici comment nous projetons cette croissance en 2024. Selon les perspectives, cette croissance serait tirée principalement par le secteur secondaire, surtout les BTP, où on tape sur une croissance de près de 16%, suivi du secteur de l'énergie, où nous aurons plus ou moins une croissance de 9%. Et à cela aussi, il faut ajouter le secteur des télécoms qui vont connaître une croissance autour de 7%. Donc, c'est avec toutes ces projections pour ces différents secteurs d'activité, on aboutit à une croissance de 7%. Et sans oublier que cette croissance, comme le président Men l'a dit, sera aussi tirée du côté de la demande par les investissements.
Vous venez de suivre Dr Germain Cramaux, enseignant d'économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, contacté par Jean-Claude Mabéa. Le tronçon Yopougon-Plateau via le quatrième pont sera opérationnel dès la semaine prochaine, a confirmé le Premier ministre. Robert Begré-Mambé était en visite sur les chantiers de la Y4 et du quatrième pont hier mercredi afin de se rendre compte de l'état d'avancement de ces infrastructures à 10 jours de la canne. Jean-Mylène Bitty y était.
Le tronçon Yopougon-Plateau, Plateau Yopougon, via le quatrième pont sera ouvert à la circulation dès le début de la semaine prochaine, a fait savoir le Premier ministre.
La première visite, nous avions un point dur, c'était le 400 mètres qui séparait le tronçon du premier pont Yopougon et le tronçon qui nous permet d'arriver le deuxième pont de Yopougon. Ce tronçon, dès le début de la semaine prochaine, sera achevé et on pourra passer du deuxième pont de Yopougon au niveau de l'autoroute, rentrer dans Yopougon et reprendre le quatrième pont pour aller directement au plateau. La circulation sera beaucoup plus aisée et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. Pour nos frères et sœurs de Yopougon, de Songon, pour aller au plateau, on ne sera plus obligé de prendre la grande autoroute. On pourra passer tranquillement sur le quatrième pont.
La voie de contournement Y4, elle, accuse un retard. Toutefois, elle sera aussi ouverte à la circulation, a indiqué Robert Begré-Mambé, qui a tenu à lancer un appel aux usagers.
Au niveau de la voie de contournement, à partir du milieu de la semaine prochaine, on pourra rallier directement la route de Benjervin au stade de Bempe pour permettre à tous ceux qui voudront aller regarder les matchs de le faire. Mais nous recommandons la prudence parce que le chantier n'est pas encore terminé. Nous précisons que la voie de contournement ne faisait pas partie des travaux exigés pour la CAN, mais le président de la République a tenu à offrir aux Ivoiriens des facilités en matière de circulation, ce qui sera fait à partir du milieu de la semaine prochaine.
Une période de gratuité sera observée à l'ouverture du quatrième pont, a fait remarquer le chef du gouvernement ivoirien.
Direction Boaké, où les journalistes ont pris d'assaut les rues de la ville le mercredi 3 janvier. Objectif, mener des actions de salubrité en vue de soutenir les autorités municipales dans leur action, dans le cadre de l'organisation de la CAN. Joseph Assalé, notre correspondant régional, était de la partie.
Qui balayant les trottoirs, qui curant les caniveaux, les journalistes des professionnels de la communication de Boaké ont mis la main à la pâte pour soutenir les autorités municipales dans leur effort d'assainissement de la ville. Le Lunage Copsi, Union des journalistes et correspondants de presse de Côte d'Ivoire, justifie ici la motivation de cette initiative. Ladji Abou Sanogo.
Boaké, où nous vivons, est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, où la Coupe d'Afrique doit se jouer. Nous avons vu le ministre député de maire Amadou Koné donner l'exemple en lançant l'opération de salubrité et lui-même en tant qu'autorité est descendu dans le caniveau pour donner l'exemple à sa population. Nous journalistes, alors nous ne pouvons pas rester en marge de cette opération-là. C'est pourquoi nous avons mobilisé tous les journalistes de Boaké comme un seul homme pour apporter notre concours, notre soutien à l'opération de salubrité, pour apporter un plus à l'organisation de la CAN. Nous voulons à travers cet acte-là dire que nous sommes aujourd'hui des journalistes modernes, des citoyens modèles, acteurs du développement.
Guy Roger de Radio Côte d'Ivoire.
À la proche de la CAN, nos autres viendront en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils trouvent une ville propre afin qu'ils puissent repartir chez eux en bonne santé. Et nous, les journalistes, on veut nous mettre dans la danse.
Pour ma Maria, l'objectif de ma présence ici est de sensibiliser toute la population à contribuer à la salubrité de notre environnement.
Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
De Boaké, nous arrivons à Mans. Les responsables en charge des eaux et forêts de la région du Tonkpi ont convié récemment les autorités administratives et coutumières de la région à une sensibilisation. Il était question de parler de la nécessité de protéger l'environnement et surtout la forêt ivoirienne en pleine disparition, mais aussi de promouvoir le nouveau code forestier datant de 2019. On en sait plus avec Stéphane Adams.
Cette rencontre a été l'occasion pour le directeur régional des eaux et forêts du Tonkpi, colonel Évariste Yapo Dian, d'apporter ses éclairages liés à la disparition progressive du couvert forestier de l'Ouest.
Pour l'instant, c'est la seule zone où encore il y a quelques couvertures forestières du fait du relief accidenté. Mais malheureusement, avec l'avènement du sillage à façon, ces reliefs accidentés sont en train d'être dégradés et la ressource en train de s'amenuiser au niveau de la région du Tonkpi.
Les flancs des montagnes ne sont pas épargnés dans la mesure où les végétaux disparaissent pour faire place aux habitations.
Il est important que nous puissions protéger ces flancs de montagne-là en effet de permettre ou sinon d'éviter non seulement l'érosion de sol mais également les inondations. Lorsqu'il y a les coupes d'arbres sur les flancs de montagne, cela crée ce que nous appelons la dilatation thermique et qui peut fragiliser un tant soit peu la structure de la roche et entraîner ce que nous appelons l'éboulement des roches, des blocs rocheux qui sont suspendus sur les flancs de montagne.
Une aubaine pour le directeur régional des eaux et forêts du Tonkpi, colonel Évariste Yapo Dian, d'instruire les autorités administratives et coutumières sur le nouveau code forestier qui fait une part belle aux propriétaires terriens.
Selon l'article 27 de la loi portant code forestier en Côte d'Ivoire, désormais sont propriétaires de parcelles, de forêts, de d'arbres, tous ceux qui sont propriétaires terriens, notamment ceux qui ont le titre de propriété de cette foncier.
La préservation de l'environnement et la régénération de couverts forestiers doivent être l'affaire de tous, a-t-il conclu. Stéphane Adams, Radio de la Paix.
À l'international, au Sénégal, Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé sur son éligibilité ce jeudi. La Cour suprême doit examiner le pouvoir en cassation introduit par ses avocats après sa condamnation. Après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face à l'actuel ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. En cas de condamnation définitive, l'opposant qui a été récemment réintégré sur les listes électorales perdra ses droits civiques. En sport, Cannes 2023, le groupe E de cette compétition se compose de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie qui joueront au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. César Yao nous fait l'analyse des forces en présence de l'équipe de la Tunisie et du Mali.
La Tunisie, l'un des géants de ce groupe E, se présente avec une équipe solide et bénéficiant d'une riche histoire dans la compétition. Les Aigles de Carthage ont terminé en tête de leur groupe de qualification, 14 points avec un bilan globalement satisfaisant de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Lors du dernier rassemblement de novembre dernier, les troupes de Jalel Kadri ont réussi à prendre le scalp de Sao Tomé Principe 4-0 et du Malawi 1-0 à l'occasion des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali, une bonne tête de surprise. Effectivement, en cette formation, on s'est qualifié facilement pour cette CAN ivoirienne. Premier du groupe G avec 15 points et un bilan quasiment parfait de 5 victoires. Pour une seule défaite, les Aigles auront à cœur de confirmer les folles promesses affichées lors de ces éliminatoires. La Tunisie et le Mali, deux sélections qui se connaissent d'ailleurs très bien, pour s'être déjà affrontées en phase de groupe des 2 dernières CAN. Un but partout en 2019 et une victoire malienne 1-0 en 2021 dans des circonstances ubuesques. Sur les 12 confrontations de leur histoire, les Aigles de Carthage l'ont emporté à 6 reprises pour 4 victoires maliennes et 2 matchs nuls. Le dernier double affrontement remonte à mars 2022 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La Tunisie avait remporté la première manche sur la plus petite démarche, 1-0, tandis que le retour s'était soldé par un nul 0-0. La Tunisie a 20 participations, meilleure performance, vainqueur en 2004. Le Mali a lui 12 participations pour meilleure performance, seulement finaliste en 1972.
Et toujours dans le cadre de l'organisation de la CAN, la ville de Mans fait peau neuve. Déguerpissement et déblayage des artères principales sont à l'ordre du jour. Une équipe de la municipalité, conduite par le premier adjoint au maire, Ouattara Draman, effectue des visites de terrain et sensibilise usagers et commerçants à l'assainissement de la ville. Des détails dans ce dossier d'actualité avec Stéphane Adams.
À l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la ville de Mans ne veut pas être en marge de l'événement. La question de l'assainissement de la ville est au cœur des préoccupations d'Osso Noël, habitante.
Avec ce que nous allons voir cette année, la CAN, Mans est une ville touristique. Il faudrait qu'on garde les lieux propres pour ne pas qu'on soit désagréable aux yeux du monde entier. Parce que les gens viendront de partout pour découvrir la Côte d'Ivoire.
Face à l'enjeu du moment, une visite de terrain avec le premier adjoint au maire de Mans, Ouattara Draman, nous a conduit à la grande gare routière de la dite ville et sur les principales voies qui accèdent au marché, communément appelé Cacasport. Au terme de cette inspection, il fait cette observation.
On a parlé aux transporteurs parce que ce sont eux qui transportent les personnes et qui les déversent sur les voies. On a parlé aussi aux petits commerçants qui viennent s'installer sur les voies passantes et qui obstruent le passage des véhicules. Nous avons décidé donc de mettre de l'ordre pour faire en sorte que les instructions du président soient respectées dans toute la commune de Mans. Nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. On ne saurait être en dehors des instructions. Dans un premier temps, c'est une sensibilisation. Demain, ce sera avec la rigueur. Une phase réflexive qui va permettre de mettre en jeu la direction régionale de la salubrité de l'assainissement à débarrasser la ville de toutes les installations anarchiques.
Sur les lieux, les commerçantes qui semblent opposer une fin de non-recevoir voilée à la requête du maire posent le problème autrement.
Zigné Hélène, je vends des bananes, aubergines, gombo. Quand ils ont dit tout à l'heure qu'on a qu'à dégager, ça nous effraie. Mais pour avoir place, c'est ça qui est le problème. Le policier vient dégager, c'est pas moi seul qui va dégager. On est beaucoup. On serait aussi beaucoup à chercher.
Bon, monsieur Emilène, je vends graines, bananes, tomates. On nous dit de quitter sur la route, on sait pas où on va partir. À moi ici là, à faire des places, ça n'est pas facile. Tu tournes, tu gagnes pas place. Mais là, marché des droits guinéens là, ce qu'ils ont déjà fait là-bas, les femmes qui sont là-bas là, elles ont déjà tout occupé. Toi, tu vas t'élever, tu vas aller là-bas. Comment tu vas avoir place? Ça peut pas aller. Non, c'est lui, il est notre solution. Tout ce que nous on peut lui dit là, il n'a qu'à nous donner une place, on va quitter sur la route. S'il vient nous dégager, dès qu'il donne, on vient s'asseoir, on n'a pas un coin pour se débrouiller. C'est ça qui est là, c'est notre secret qui est là, on ne peut rien faire.
Notons que pour véritablement réussir, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire, l'ensemble du gouvernement ivoirien, à travers le COCAN, compte sur l'apport individuel de chaque Ivoirienne et Ivoirien. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Et nous arrivons à l'invité de la rédaction. Depuis le 1er janvier 2024, la mesure d'ajustement du prix de l'électricité est en œuvre. Le prix de l'électricité connaît une hausse de 10% pour l'ensemble des abonnés, soit environ 4 millions de personnes, a annoncé le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, le mardi 26 décembre 2023. Quels sont les facteurs à l'origine de cette nouvelle hausse et que faire pour réduire son impact sur la vie, le quotidien? Des 4 millions d'abonnés concernés par cette mesure, les réponses à ces préoccupations avec Serge Parfait Diomané, expert international en industrie pétrolière et énergie. Il est interrogé par Jean-Claude Mabéa.
Bonjour Serge Parfait Diomané, vous êtes un expert international en pétrole et énergie. Un second ajustement des tarifs de l'électricité à compter du 1er janvier 2024. Quel commentaire faites-vous de cette décision du gouvernement ivoirien?
Au regard de certains facteurs exogènes qui ont sérieusement affecté le secteur de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua, a annoncé un ajustement de l'ordre de 10%. Il faut bien comprendre que c'est une disposition tactique normale, c'est une routine et surtout une action nécessaire chaque fois qu'un pays ou un secteur stratégique d'un pays se trouve dans un déficit opérationnel. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un déséquilibre opérationnel financier.
Comment arrive-t-on à avoir un tel déséquilibre et quel pourrait en être les conséquences?
Dans le domaine de l'énergie électrique, on parle de déséquilibre opérationnel financier quand le prix de revient du kilowattheure est supérieur au prix d'achat. par le consommateur. Ça veut dire, en fait, que le consommateur achète le kilowattheure qui lui est livré à un prix qui est inférieur au prix auquel il aurait dû l'acheter normalement, en considération de toutes les dépenses qui sont faites pour obtenir un prix de revient. C'est donc la situation que vit la Côte d'Ivoire en ce moment, où nous avons un kilowattheure qui est acheté par le consommateur à 79 francs CFA, alors que le prix de revient est en moyenne de 89 francs CFA. Dans toute la sous-région, lorsqu'on compare, on se rend compte que beaucoup de pays, enfin la majorité, sont au-delà des 100 francs CFA le kilowattheure. Donc en tout état de cause, la Côte d'Ivoire est le pays qui vend son kilowattheure le moins cher disponible pour la population.
Serge Parfait Dioman, quelles pourraient donc être les causes de cette nouvelle hausse de tarifs de l'électricité?
Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il peut en avoir eu dans le passé, peut-être qu'il en aura dans le futur, mais dans le cas présent, cela est dû à plusieurs facteurs. Donc les plus marquants, il n'y a pas de facteur endogène particulier, mais c'est vraiment le facteur exogène. Nous avons par exemple la crise russo-ukrainienne qui est vraiment fort impactante en plusieurs aspects. On peut citer juste deux, mais il y en a plusieurs aspects. Par exemple, l'on sait bien que la production d'énergie électrique dans divers pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire aussi, se fait en partie par du gaz naturel. Et le gaz naturel est aujourd'hui en flambée, très grande flambée sur les places des marchés internationaux, du fait que la Russie, qui est le deuxième producteur mondial de gaz naturel derrière les États-Unis, se trouve aujourd'hui dans une situation conflictuelle dont l'issue est à date indéterminée. En un mot donc, le gaz naturel s'achète aujourd'hui à un prix nettement très élevé par rapport à ses tarifs habituels des temps normaux. Le deuxième aspect lié à la crise russo-ukrainienne est aujourd'hui la cherté. La cherté des équipements et des ouvrages qui sont utilisés dans la chaîne de production et de transport et distribution de l'énergie électrique. Nous savons bien que l'Afrique ne produit quasiment pas ces genres d'équipements dont nous avons besoin. Et donc, lorsque les pays producteurs sont affectés par la crise russo-ukrainienne et que leurs factures énergétiques grimpent, ce sont des factures qui répercutent directement ces équipements qu'ils nous vendent. Et nous avons besoin de ces équipements pour entretenir notre réseau électrique. En bout de chaîne, donc, tout cela nous est répercuté. Un autre facteur exogène est la crise du coronavirus que nous avons vécu. C'est une crise qui a imposé au monde entier un embargo, où il y avait impossibilité de disposer de pièces d'échange, d'équipements pour faire la maintenance correcte des usines, y compris les réseaux électriques des pays. Après cette crise donc, tous les pays ont lancé des commandes, ça a affolé les marchés, les prix ont grimpé et ne sont plus redescendus. Et tout le monde paye le prix cher aujourd'hui.
Et quelles propositions pouvez-vous faire aux décideurs et aussi aux consommateurs pour réduire l'impact de cet ajustement des tarifs de l'électricité sur leur quotidien?
Lorsque l'on arrive à une telle situation, il est bon aussi de voir ce qu'on peut faire à son niveau personnel. Donc à l'endroit de mes concitoyens ivoiriens, ivoiriennes, le message est simple, voir comment réduire ses poches de dépenses énergétiques. Entre autres donc, réduire le gaspillage énergétique, voir partout où est-ce qu'on peut faire de l'économie d'énergie électrique, c'est déjà une bonne solution. Et ensuite, voir aussi comment arriver, avec les moyens qu'on a, à répondre favorablement à cette sollicitation du gouvernement qui demande une part contributive à chacun. Cela est nécessaire pour préserver nos acquis, les acquis du patrimoine énergétique ivoirien, assurer sa maintenance de façon correcte et nous projeter dans l'avenir en développant d'autres ressources énergétiques, notamment le renouvelable.
Serge Parfait Dioman, je rappelle que vous êtes un expert international en pétrole et énergie. Merci pour cet entretien et à très bientôt sur Radio Dlap.
Voilà l'invité de la rédaction, Serge Parfait Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie, a été interrogé par Jean-Claude Mabéa. Et c'est ici que prend fin cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Face au rapport du budget 2022 de la Cour des comptes, le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire se désole de ce que les ressources de l'État ne lui permettent pas d'atteindre ses objectifs. Le tronçon Yopougon-Plateau via le quatrième pont sera opérationnel dès la semaine prochaine, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en visite hier sur les chantiers de la Y4 et du quatrième pont. Au Sénégal, la Cour suprême doit statuer dans le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Retrouvez juste après la revue de presse avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Le dernier rapport de la Cour des comptes est abondamment repris par les journaux de ce jeudi 4 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. À ce propos, le nouveau réveil ne porte pas des gants en écrivant « Rapport sur